7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on changer le monde avec un hashtag ? On a tous en tête les MeToo pour libérer la parole des femmes et dénoncer les agressions sexuelles, ou Bring Back Our Internet, le cri de révolte pour établir l'Internet au Cameroun, ou encore Je suis Charlie, il y en a beaucoup d'autres. Black Lives Matter pour dénoncer les violences policières à l'égard des Américains noirs. Certains avec une vie éphémère, très éphémère, mais qui tous racontent le monde actuel. Alors comment ces mots-clés sont-ils devenus viraux sur les réseaux sociaux ? Qui sont leurs auteurs ? Quelles sont leurs histoires ? On va en discuter avec nos invités, François Salciel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chroniqueur pour l'émission 28 minutes sur Arte, et vous publiez Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et autres histoires de hashtags qui transforment nos vies aux éditions Flammarion. Alors le fameux vendeur de thé, en fait, c'est Arshad Khan.
Oui.
Moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est un jeune vendeur de thé pakistanais dont le seul mérite au départ, c'est quand même juste d'être très beau.
Oui, c'est juste sa beauté, effectivement, qui est saisissante, mais après, il va se retrouver à être un ambassadeur de la paix en tendant la main à ses frères indiens. Donc ça va un peu plus loin que la beauté, ouais, quand même.
Il faut dire aussi que le Pakistan et l'Inde sont des pays très peuplés et que ça peut aller très très vite sur la toile. On sera également en ligne avec la web entrepreneuse Sandrine Lagertiga, franco-tchadienne. Elle a lancé le hashtag Régler comme elle pour briser le tabou des menstruations sur les femmes sur le continent africain. Et bien sûr, quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez la parole en direct, comme chaque jour dans l'émission sur RFI. Quels sont les hashtags, les cris de ralliement sur la toile qui vous ont marqué, dans lesquels vous vous reconnaissez ? Internet a-t-il un réel pouvoir pour relayer des causes qui vous tiennent à cœur, produire des changements concrets ? Appelez-nous surtout dès maintenant sur notre numéro de téléphone qui est aussi un WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi laisser un message audio sur WhatsApp. En fin d'émission, on aura un reportage de Charlie Dupio à Téhéran, portrait d'une entrepreneuse, une jeune entrepreneuse iranienne, dans un pays où les filles sont majoritaires dans les universités et seulement 16% ensuite à travailler. Je vous lis un petit message posté sur Facebook, François Saltiel. Hosanna est à Beboto, dans le sud du Tchad. Il nous dit « Deux hashtags ont retenu mon attention, je suis Charlie » et « Hashtag Kémi Séba », qui a été créé quand Kémi Séba a été arrêté pour avoir brûlé un billet de banque en direct à la télévision. La création du hashtag Kémi Séba, ça l'a aidé à sortir de prison, nous dit Hosanna. Kémi Séba qui a été depuis accueilli au Tchad, et le débat qu'il a lancé sur le franc CFA n'est toujours pas retombé d'ailleurs. Hein.
Ben ça, c'est un bon exemple, justement. Ça fait plaisir d'entendre un témoignage comme celui-ci. Comment un hashtag m'a aidé à sortir de prison, vous imaginez ? Le hashtag, c'est virtuel, c'est un peu abstrait, et pourtant, ça peut avoir des conséquences positives, concrètes, jusqu'à une sortie de prison.
Voilà, Kémi Séba, qui évidemment est un personnage controversé, provocateur. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour nous dire quels sont, dans votre vie quotidienne, les hashtags qui vous ont marqué, dans lesquels vous vous reconnaissez.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
François Saltiel, quand on parle de hashtag, c'est devenu presque un nom commun. En fait, vous êtes fondé à la fois sur Twitter, mais aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux, non ?
Oui, le hashtag est effectivement né sur Twitter il y a maintenant une dizaine d'années, c'était en 2007. C'était un ingénieur de Google qui cherchait un moyen que les usagers puissent se retrouver sur Twitter, qui est quand même un flux d'informations continu. Donc il a inventé ce symbole, qui est un croisillon, à côté duquel vous ajoutez un mot, ça devient un sujet, et les gens peuvent s'y rencontrer, tel un salon numérique. Twitter l'a ensuite institutionnalisé dans son environnement 2 ans plus tard, et ensuite sur tous les réseaux. Facebook ou Instagram, ouais, utilisent évidemment le hashtag, et vous le disiez, tout le monde a un hashtag, ici vous en avez un, toutes les émissions de télévision, les marques, etc. Même si moi, ce qui m'intéresse, c'est le hashtag militant.
On est bien d'accord, et ce hashtag, quand il devient viral, c'est justement parce qu'il s'installe sur l'ensemble des réseaux sociaux, hein, puisque Twitter, c'est beaucoup moins d'abonnés que Facebook, par exemple. On va commencer, si vous le voulez bien. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans votre livre. On va commencer par la déflagration la plus récente, la plus commentée, la plus diffusée, avec les plus larges conséquences aussi. Et en même temps, on peut s'interroger sur ce que ça a vraiment changé pour la vie des femmes. Hashtag MeToo. c'est-à-dire la libération mondiale de la parole des femmes contre les violences sexuelles, qui d'ailleurs n'a pas commencé avec ce hashtag-là. D'ailleurs, ça commence bien avant.
Oui, ça commence bien avant. Alors, il y a deux petites préhistoires, en fait, par rapport au MeToo qu'on connaît. Déjà, le hashtag Balance ton porc, qui est un hashtag français qui est préexistant au hashtag MeToo de quelques jours, qui a été lancé par la journaliste française Sandra Müller, qui travaille aux États-Unis. Et puis, bien avant, 10 ans auparavant, eh bien, il y a une militante afro-américaine, Tarana Burke, qui a lancé ce hashtag MeToo, pareil, hein, pour dénoncer les violences sexuelles à l'encontre des femmes, notamment des jeunes femmes, hein, des mineurs. Et elle avait inventé ce mot parce qu'elle s'est dit que finalement le meilleur moyen d'aider ces femmes-là, c'est de les comprendre, c'est d'être dans l'empathie, d'où le moi aussi j'ai vécu ça. Donc il date de 10 ans, mais à cette époque-là, il n'avait pas émergé. Et c'est Alyssa Milano, la comédienne que vous connaissez peut-être de Madame est servie il y a quelques années maintenant, qui a popularisé le hashtag MeToo, mais il existait bien 10 ans auparavant.
Oui. Alors on voit bien comment ces hashtags et ces débats sur la toile, ça a des fonctionnements vraiment en arborescence. MeToo a été relayé 1 million de fois en 24 heures. L'auteur historique était effectivement, alors elle s'est un peu finalement fait voler hein, son initiative, mais ça a eu tellement de, ça a suscité tellement tout de suite ça a parlé aux femmes en fait.
Hein. Exactement, alors juste petite précision, elle se l'est fait voler oui et non, car Alyssa Milano très rapidement a dit excusez-moi, mea culpa, ce hashtag existe déjà, c'est Tarana Burke, elle l'a inclus dans son combat, et Tarana Burke a elle-même déclaré « L'occasion est trop belle de voir toutes ces femmes se réunir les unes avec les autres pour dénoncer ces violences sexuelles que je ne vais pas commencer à lancer une polémique. » Donc voilà, j'ai été la première, mais aujourd'hui je vous rejoins toutes.
Il y a vraiment un savoir-faire qu'on observe dans toutes ces histoires pour susciter à la fois la polémique, les accusations, le témoignage. On voit bien que, par exemple, sur Balance ton porc, ça commence « Toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot, je vous attends. » Il y a une façon de s'exprimer très particulière.
C'est vrai.
Pour être inondée ensuite.
Alors, effectivement, chaque histoire est différente. Parfois, souvent, ces femmes-là sont quand même à chaque fois dépassées par le succès, par la vague qu'elles ont enclenchée ou engendrée. Et surprise. Là, le tweet que vous venez de lire, qui est le premier tweet de Sandra Müller sur le Balance ton porc, là, clairement, c'est un appel. C'est de dire, voilà, moi, j'ai vécu ça, j'ose enfin le dire, dis-le toi aussi, je t'attends. Sauf qu'à mon avis, elle s'attendait à 15 messages. Elle ne s'attendait pas à ce mouvement, à ce tsunami qui a eu lieu en France, en l'occurrence avec Balance ton porc, et puis ensuite dans le monde entier avec MeToo.
Bien avant, on avait eu « When did you meet your Harvey Weinstein ?» mm-hmm. hein, c'est-à-dire « Quand est-ce que vous avez rencontré votre Harvey Weinstein ?» qui là aussi était un appel au témoignage.
Exactement.
Sur le producteur de cinéma américain.
Oui, c'était une écrivaine canadienne qui avait lancé effectivement ce hashtag-là, juste après l'affaire Weinstein. On le voit bien, de toute façon, il y a plusieurs niveaux. On a ce scandale qui éclate aux États-Unis à la fin de l'année 2017, c'est toujours intéressant de se demander s'il n'y avait pas eu ces hashtags, que se serait-il passé si on avait juste eu le scandale Harvey Weinstein, évidemment.
C'est-à-dire si on avait juste eu les témoignages publiés par le New York Times.
Voilà, les témoignages par le New York Times.
Bon, ça se serait mal passé pour lui de toute façon.
Certainement, il aurait perdu son poste. On aurait eu sans doute quelques tribunes de comédiennes qui auraient dit « moi aussi ». Mais après, je pense qu'on serait passé à autre chose. Ce qui a été intéressant, c'est que là, le grand public s'est saisi de cette histoire-là. Les femmes s'en sont saisies. Elles ont dit, mais attends, on va pas s'arrêter ici. Moi aussi, je vais le dire. Moi aussi, je l'ai vécu. Oui. Je ne suis pas comédienne, mais je l'ai vécu dans mon travail ou je l'ai vécu dans ma famille.
D'accord, tout le monde a parlé, ok. Mais après, il y a eu le hashtag Time's Up, c'est fini. Mm-hmm. Vous avez entendu, maintenant, il faut agir.
Exact.
Mais finalement, que s'est-il passé?
Le hashtag Time's Up, ça a été quand même.
Les démissions et les. Je veux dire, de nombreuses personnes ont perdu leur job, ça on est bien d'accord, mais pour la vie quotidienne des femmes.
Alors le Time's Up, ça a été quand même la naissance d'un fonds de plusieurs millions de dollars qui permettent aujourd'hui de permettre aux femmes qui ont subi des violences sexuelles ou des harcèlements d'entamer des actions judiciaires parce qu'elles n'en avaient pas les moyens. Grâce à ce fonds Time's Up, ça a permis de les accompagner dans cette démarche-là. Ça permet effectivement une prise de conscience, je pense, dans le milieu du cinéma en l'occurrence, puisque c'est né là-bas, du comportement des hommes qui se disent « Oh là là, mais si demain moi je me retrouve aussi sur la place publique, je vais être amené à y réfléchir. » Je pense que quand même, on a souvent dit que ça a libéré la parole des femmes, c'est un fait, mais c'est aussi éveillé une certaine conscience des hommes dans leurs pratiques sexistes, même quotidiennes, ce qu'on peut appeler le sexisme ordinaire, en se disant, est-ce que moi aussi, finalement, au quotidien, je n'ai pas une manière de traiter les femmes qui n'est pas totalement égalitaire. Donc, c'est quand même une évolution des mœurs. Ensuite, puisque je vois que vous êtes en attente de faits concrets, ce qui est normal, on voit que dans certains pays, la loi aussi change. En France, par exemple, il y a tout un projet de loi pour renforcer les sanctions autour du harcèlement ou des violences sexuelles.
Et en même temps, aux États-Unis, le mouvement MeToo n'a pas provoqué plus de remous dans les entreprises. On s'attendait à ce qu'il y ait énormément de plaintes en justice pour une raison très simple, c'est la généralisation des procédures d'arbitrage. De nombreuses plaintes de salariés à l'heure actuelle aux États-Unis ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte en justice parce qu'elles sont traitées en arbitrage obligatoire. Il y a 55% des salariés américains qui signent dans leur contrat d'embauche une clause d'arbitrage obligatoire. Ça veut dire qu'il y a ensuite un arbitre qui est un ancien juge ou un avocat qui examine l'affaire et puis ensuite il y a des compensations financières. Donc finalement tout ça, ça ne remonte pas. Alors est-ce que Twitter, Facebook, l'internet est une justice parallèle quand ça ne va pas assez vite sur le plan de la justice et sur le plan des textes? On peut se poser la question parce que aux États-Unis à l'heure actuelle, moi salarié d'une entreprise américaine, est-ce que vraiment je peux porter plainte contre une personne qui m'agresse sexuellement et aller jusqu'en justice et ensuite par exemple notamment faire appel si on n'est pas satisfait de la décision? C'est pas possible.
C'est ce qu'on a reproché aussi à l'outil Twitter d'être un tribunal où on jetait des noms sur la place publique. Alors effectivement, là vous parlez de la situation américaine qui est particulière. Alors on peut s'interroger sur ce système qui ne permet pas finalement à la justice de pouvoir exercer ses droits puisqu'on a une sorte de privatisation des affaires au sein d'organismes et au sein d'entreprises. En ce qui concerne la France que je connais un peu mieux, l'affaire MeToo, le mouvement MeToo a au moins fait augmenter de 30% les plaintes à la gendarmerie des femmes en ce qui concerne les affaires de violences sexuelles et de harcèlement.
Fin 2017.
Voilà.
Effectivement. Vous restez bien sûr avec nous, François Saltiel. On accueille une voisine qui est avec nous en ligne d'Abidjan. Bonjour Sandrine Nagertiga.
Bonjour Emmanuel, bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes une entrepreneuse dans le numérique, vous êtes à Abidjan, vous êtes franco-tchadienne, vous êtes blogueuse. Vous, comment vous avez vécu MeToo, notamment sur le continent africain, Sandrine?
Alors donc, pour expliquer un petit peu, moi je me suis beaucoup intéressée à ce hashtag qui a été très promulgué sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le continent africain, je n'ai pas vu vraiment beaucoup d'émulation, contrairement à ce qui s'est pu se passer sur le continent américain ou en Europe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes en Afrique, donc du coup, il y a plusieurs difficultés dans leurs conditions actuelles, ont déjà ce problème d'accès déjà à la connexion. Ça, c'est un premier problème qui a été lié. Donc, il n'y a pas vraiment ce mouvement-là qui a pris sur les réseaux sociaux. Après, j'ai envie de dire qu'il y a eu beaucoup d'émulation, il y a des personnes qui ont pu en parler, les femmes le vivent beaucoup déjà au quotidien, mais ça n'a pas vraiment pris comme c'était le cas sur le continent africain ou en Europe. Ça a été un peu mon point de vue.
Si je vous demande, Sandrine Nagertiga, vous, quels sont les hashtags qui marquent le débat sur les femmes en Afrique? Je sais que vous voulez nous parler d'un hashtag qui s'appelle Robeuse, en référence au film ivoirien de la fin des années 80, Balle poussière.
J'en ai assez, ma tante. On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre boniche. Maintenant, la cuisine, le ménage, c'est fini. Je ne ferai que ce que je veux.
Mais tu es devenue folle.
C'était à la fin des années 80, c'est extrait donc de Balle poussière, le film d'Henri Dupart. Donc l'antisexisme ne date pas d'hier, hein, Sandrine Nagertiga.
Tout à fait. Donc le mouvement Les Rebeuses a été pour moi très intéressant parce que j'ai trouvé qu'effectivement elles se sont basées sur quelque chose qui se passait bien avant, donc un film qui a été très culte, notamment sur le continent africain, où c'était, pour raconter un peu, hein, c'était l'histoire d'une jeune femme qui a été contrainte par son oncle et sa tante de laisser donc son musicien qu'elle aimait et qu'elle avait rencontré en ville, et pour repartir au village. Donc elle a été mariée par un polygame surnommé Demi-Dieu, pour ceux qui connaissent le film. Et donc ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que c'est cette femme, donc cette Binta en question qui a été mariée par un polygame, a voulu imposer un peu ses rapports homme-femme et créer un peu deux clans. Donc il y avait le clan des pagneuses, donc pour les femmes qui étaient beaucoup plus âgées, qui étaient un peu dans la tradition, et donc les robeuses qui donc faisaient partie de cette jeune femme qui a vraiment montré un peu ce côté modernité.
Donc, les robeuses contre les pagneuses. Ouais. Alors aujourd'hui, le hashtag robeuse, l'expression qui ressurgit ou qui n'est jamais morte en fait, qui est toujours restée dans les mémoires.
Tout à fait.
Quelle est son existence aujourd'hui?
Alors donc ce hashtag a été en quelque sorte créé par un collectif de femmes, hein, donc franco-ivoiriennes pour la plupart, donc Laure Bédou et d'autres personnes que je connais pas très bien. Donc en fait c'est un hashtag qui est vraiment reparti encore une fois de cette histoire-là et qui invite en quelque sorte les femmes à raconter des anecdotes ou des histoires vécues qui vont mettre en lumière un peu les remarques et les comportements sexistes. Donc je me suis vraiment intéressée à ce hashtag-là qui a permis vraiment de aussi encore une fois briser le silence et de libérer la parole de ces femmes-là qui ont pu vivre des histoires de ce genre.
Sandrine Nagertiga, je sais qu'il y a un hashtag qui vous tient particulièrement à cœur et pour cause, c'est vous qui l'avez créé, ça s'appelle « Régler comme elle ».
Tout à fait. Donc oui, ce hashtag, je l'ai lancé en mai 2017. Donc il y avait encore une fois pour but vraiment de briser le silence autour des menstruations chez les filles et les femmes en Afrique, dans un premier temps. Donc qui avait été lancé sur Twitter et par la suite donc repris sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et j'étais partie du constat que voilà, il y avait dans ma famille une personne proche qui avait vécu cela, qui était un peu une sorte de silence. Elle avait donc une jeune femme qui n'était pas forcément qui allait passer dans l'âge
une femme ménopausée, c'est ce que vous voulez dire, qui n'a plus ses règles?
Non, pas ménopausée, non, une jeune fille qui va passer dans l'âge adulte. De la puberté.
Ah oui, c'est ça.
Exactement, le mot m'échappait, donc du coup, qui allait passer à cet âge-là et qui avait un peu, qui n'arrivait pas à parler de cela avec, avec ses proches. Donc, c'est un peu parti de cette histoire-là. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, une jeune fille, pour qu'il y ait des menstruations, donc un phénomène normal, ne pourrait pas en parler tout simplement à sa mère ou à une personne proche de la famille? Donc, je suis partie de ce hashtag-là où j'ai voulu un peu demander aux femmes en Afrique, dans un premier temps, de briser un peu les tabous autour de ça, via ce hashtag-là, pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Et donc, j'ai été vraiment très contente de voir un peu le succès de ce hashtag-là. Et aujourd'hui,
vous avez été surprise d'ailleurs ou pas, alors que le sujet était largement tabou?
Très très surprise parce que bon, bien entendu, comme dans tout combat, on a des pour et on a des contre. Mais j'ai été très surprise notamment de voir déjà des hommes qui étaient impliqués dans cette histoire-là, donc de voir qu'il y avait aussi des hommes qui pouvaient s'intéresser à ça, des pères de famille, des maris ou des frères tout simplement, et aussi de voir qu'il s'est pris une telle ampleur en disant que là, il y a vraiment quelque chose à faire derrière. Maintenant, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire après ce hashtag. L'après-hashtag, donc c'est ce pourquoi je suis en train de travailler actuellement.
C'est toute la difficulté d'ailleurs, hein. C'est que faire quand il y a un tel engouement, quand il y a une telle reconnaissance collective dans une cause, là sur lever le tabou des règles. Vous parliez des hommes parce qu'en fait tous les pères de famille sont conscients que c'est une des premières causes d'absentéisme des filles à l'école, donc ça a des incidences, y compris dans les ministères de l'éducation dans différents pays. Mais comment on passe à l'action, François Saltiel, ça c'est un questionnement pour tous les grands débats.
Exactement, c'est un questionnement, on passe pas systématiquement à l'action, par contre cette étape-là que vous venez de décrire, elle est essentielle. Moi je retiens quand même, ça a permis de briser le silence, c'est-à-dire que quand on parle pas des règles, quand on n'a pas justement ces réseaux sociaux qui offrent une caisse de résonance, avec finalement une forme aussi d'anonymat parfois, qui peut permettre de témoigner sans être jugé, et puis tout simplement de se rendre compte qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même chose que nous, d'autres jeunes filles qui vivent la même chose que nous. Vous le disiez ensuite, un second temps, il faut que la cause elle soit pas uniquement défendue par celles qui sont concernées, mais aussi par les hommes, en l'occurrence, qui ont encore le pouvoir, encore plus dans
les
certains
politiques
pays que
notamment,
d'autres.
Les politiques, qui ne sont pas du tout étanches à cette opinion de la rue sur la toile.
Et exactement, et qui généralement s'y intéressent peu, sauf que quand ils voient une population, une forte population qui s'approprie le sujet, encore plus des hommes qui sont des électeurs, des hommes puissants, des chefs d'entreprise, etc., eh bien, tout ça peut quand même amener une prise de conscience, et la prise de conscience à la prise d'action, et de changements réels. Donc ce n'est pas automatique, mais cette étape-là, elle est néanmoins nécessaire et indispensable.
Sandrine Nagertiga, est-ce qu'il y a une mobilisation contre l'excision avec des hashtags aujourd'hui qui commencent à prendre de l'importance?
Oui, donc il y a eu le hashtag notamment non à l'excision qui a été lancé en Guinée, pour laquelle donc les femmes vraiment revendiquaient un peu luttaient contre cela et demandaient à qu'il y ait déjà un réveil de la conscience politique et qu'ils puissent mettre en place des actions fermes contre ces femmes-là qui excisent malheureusement beaucoup de jeunes filles. Donc ce mouvement-là a pris vraiment une très grande ampleur. Cependant, maintenant derrière, il se posait encore la question de savoir concrètement qu'est-ce qui se faisait sur place, parce que c'est bien de lancer un mouvement, mais derrière, s'il n'y a rien qui est fait, on revient toujours à l'étape d'avant, peut-être même pire pour certaines. Donc par la suite, en janvier 2018, il y a un nouveau hashtag donc, qui a repris un peu ce nom à l'excision-là, qui est devenu « Touche pas à mon corps », qui a été créé par une association de jeunes femmes sénégalaises qui ont voulu baptiser un peu ce mouvement-là pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles.
Merci beaucoup Sandrine Nagertiga d'avoir été en ligne avec nous à Abidjan. Juste pour vous laisser le temps de réagir. François Saltiel, on voit bien quand même, et c'est pas un hasard si évidemment vous avez consacré une grande partie du livre à MeToo, que l'Internet, la toile, c'est devenu alors un espace privilégié pour l'expression des femmes, mais aussi parce que on peut arriver à débattre de sujets qui étaient dans des angles morts autrefois.
Exactement, d'ailleurs sur ces 10 histoires, hein, puisqu'il y a 10 hashtags qui sont traités dans ce livre, 8 sont portés par des femmes. Je ne l'ai pas fait volontairement en me disant tiens, c'est tendance de parler des femmes, ça s'est imposé à moi en fait. Une fois que les 10 étaient compilés, je me suis dit mais attendez, c'est 8 qui sont portés par des femmes, et c'est tout sauf un hasard, puisque justement les réseaux sociaux peuvent être un second espace, un espace où les femmes qui sont parfois discriminées dans l'espace physique peuvent trouver dans l'espace virtuel, eh bien, un endroit où elles peuvent être écoutées, fédérées, où elles peuvent aussi pointer du doigt les discriminations. Donc c'est un peu l'espace des contre-publics subalternes, comme le théorisait Nancy Fraser. Donc c'est tout sauf un hasard.
Ouais, ces hashtags portés par des femmes et qui deviennent mondialement connus, c'est le cas évidemment de Black Lives Matter, on en parlera, j'espère qu'on aura le temps. Bring Back Our Internet aussi au Cameroun pour protester contre la coupure d'Internet en région anglophone. Et bien sûr, vous nous appelez les voisins et les voisines. Dites-nous quels sont les hashtags qui ont des répercussions pour vous, auxquels vous vous identifiez le plus. Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Jen, chez 7 milliards de voisins, on est tous les jours en direct du lundi au vendredi sur RFI pour se parler de tout ce qui fait nos vies quotidiennes. Et évidemment, sans l'Internet, c'est comme s'il n'y avait plus de lumière. On en parle avec vous, François Saltiel. Vous publiez Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et autres histoires de hashtag qui transforment nos vies. Et bien sûr, on vous donne la parole au 33 1 84 22 71 71. Quels sont les hashtags qui ont de réelles répercussions sur votre parole, la façon dont vous vous sentez considéré, les problèmes qui vous concernent. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Goma en RDC. Bonjour Houssène.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes en direct chez 7 milliards, on vous écoute Houssène.
Et en fait, concernant cette question, moi, je voulais dire que c'est possible d'échanger le monde avec les hashtags, parce qu'aujourd'hui, ça peut favoriser le vivre ensemble. On peut s'y regrouper autour d'une cause commune, autour d'une même idéologie, surtout dans les événements qui sont malheureux, pour la plupart des cas dans le monde entier aujourd'hui, et surtout en Afrique. Donc c'est une source de motivation pour les personnes. On peut facilement cohabiter ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile parfois dans beaucoup d'endroits sur la Terre de cohabiter. C'est toujours difficile de vivre ensemble. Avec les hashtags, je pense que ça peut être une source de motivation et ça peut permettre aux gens de vivre chacun à côté de l'autre.
Et vous, à quel hashtag vous vous sentez appartenir aujourd'hui, Houssaine, puisque ça va très vite, ça change très vite.
Aujourd'hui, beaucoup plus je suis béni, le hashtag je suis béni, qui récemment a été posté sur les réseaux sociaux par des mouvements citoyens ici à Goma, dans la province Nord Kivu.
Pour dénoncer les massacres dans le Nord Kivu.
Évidemment, c'est l'hashtag auquel je me sens beaucoup plus attaché ces derniers temps.
Mais vous disiez au Standard, en même temps, vous êtes pessimiste sur la durée de vie et de la survie tout court de ces hashtags.
Oui, c'est très difficile la survie de ces hashtags, parce qu'il y a une sorte de pression politique, l'insécurité politique. On craint pour sa vie, particulièrement dans des zones, dans la zone dans laquelle on reste, parce que c'est difficile. On peut subir des pressions parfois, des menaces de mort. Donc c'est difficile qu'il y ait une grosse mobilisation, une mobilisation générale autour des hashtags. Et d'ailleurs, on se rappelle que à un certain moment, il suffisait seulement de se promener dans la rue avec un t-shirt sur lequel est imprimé le hashtag "Je suis béni". Oui. C'était très difficile, on subissait des pressions. Donc c'est très très difficile, très compliqué pour les motifs politiques.
En tout cas, c'était largement relayé par RFI. Les hashtags, la toile, les forums de discussion, c'est vraiment la nouvelle parole de la société civile dans un pays comme la RDC. Merci beaucoup, Houssaine, de nous avoir appelé de Goma. Écoutez aussi un message qui a été posté sur WhatsApp par un autre voisin en RDC.
Bonjour, 7 milliards de voisins. C'est Mystique Maemba de Kinshasa. Ici en Afrique, comme ici en RDC, nous avons besoin des actions, pas des hashtags. Il y a des fois, nous, des jeunes Kinois, on suit des hashtags sans vraiment, vraiment, vraiment connaître l'objectif de la personne qui l'avait créé. Mais ce qui importe, c'est quelqu'un qui va vraiment mener des actions, pas des hashtags.
Il pose une vraie question, Mystique. Effectivement, on se retrouve quelquefois sur un fil de discussion. On ne sait pas très bien d'où c'est parti, ce qui se passe. Il y a à la fois un grand engouement, une méfiance, une interrogation, une perplexité, non ?
Oui, alors il y a deux choses que je retiens dans ce qui vient d'être dit. C'est tout de même notre premier auditeur qui nous disait qu'il risquait pour sa vie aussi lorsqu'il véhiculait ces hashtags, ce qui veut bien dire que le hashtag peut être un outil de rébellion, parce que s'il est aussi réprimé, c'est qu'il peut être dangereux. Donc il y a véritablement une force de contestation. On l'a vu d'ailleurs dès les printemps d'Arabes en 2011, qui ont véritablement permis...
Où là, c'était vraiment Facebook, à l'époque.
Voilà, il y a eu Facebook et Twitter aussi. Hein, et Twitter aussi, mais en tout cas, c'est la jeunesse qui s'est soulevée, puisqu'elle a utilisé ses réseaux sociaux dans l'angle mort de la censure. Personne n'avait vu venir que ces réseaux sociaux-là pouvaient être des outils. Après, effectivement, j'entends la remarque de notre second auditeur qui nous dit c'est un petit peu facile, parfois on est au fond de notre canapé, on fait qu'un petit retweet, ça nous prend deux secondes, et c'est pas pour autant qu'on partage justement cette action et cette opinion. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette facilité tout de même à juste relayer, ce n'est pas très engageant. Sauf quand on nous le dit, quand on risque la prison en le faisant, quand même, donc ce qui n'est pas rien finalement de retweeter, puisqu'on parle de Twitter. Mais il faut aussi penser à tous ces gens qui, eux, s'y retrouvent véritablement dans ce hashtag et qui vont fédérer et qui vont descendre dans l'espace numérique. Mais regardez, dans les manifestations, c'est la même chose. En tête d'un cortège, on peut avoir des gens très impliqués, très convaincus, et puis d'autres, je sais pas, prenons au hasard des étudiants qui se disent tiens, allez, et si j'allais moi aussi rejoindre cette foule sans trop savoir ce que je défends. Mais à un moment donné aussi, c'est susciter le nombre pour arriver à faire entendre son combat. Il y a des gens plus ou moins motivés qui sont dans les cortèges numériques ou physiques.
Dans votre livre, Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et autres histoires de hashtags qui transforment nos vies, François Saltiel, il y a un chapitre consacré au Cameroun et au fameux hashtag Bring Back Our Internet. Référence au départ au fameux Bring Back Our Girls, l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014 au Nigeria. Au Cameroun, les provinces anglophones sont restés 93 jours sans internet, autant dire sans lumière, d'où l'intérêt et comment ce hashtag a fédéré, y compris la zone francophone, sur ce que l'ONU a appelé une atteinte aux droits humains, en fait, aujourd'hui. Priver les gens, les humains d'Internet.
Oui, exactement. Pour recontextualiser, c'est les provinces anglophones, donc au Cameroun, qui se sont soulevées avec des grèves qui ont duré très longtemps, qui sont parties du barreau des avocats dans les deux provinces anglophones du pays, qui voulaient justement pointer du doigt les discriminations auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Et le gouvernement et Yaoundé a réprimé ce mouvement de révolte en coupant Internet, alors que là-bas, justement, Internet fait vraiment partie du tissu économique. Hein. On a une sorte de petite Silicon Valley qui existe dans les provinces anglophones, la Mountain Valley, où il y a de nombreuses startups qui arrivent justement à vivre et à faire vivre ces deux provinces-là. Et ce qui est intéressant, c'est un mouvement de solidarité qui est né par la suite, puisque les provinces anglophones qui, elles, bénéficiaient toujours d'Internet, ont pu relayer ce hashtag venu de leurs cousins, de leurs amis anglophones, Bring Back Our Internet, rendez-nous notre Internet, pour justement eh bien, faire comprendre à l'État que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était tout simplement une privation de liberté fondamentale.
Ça a été lancé un peu par hasard en même temps, ce Bring Back Our Internet, en tout cas dans sa formulation, par une femme.
Par une femme, toujours, qui s'appelle Rebecca Enochong, qui est avocate. Elle aussi, d'ailleurs, son père avait fondé le barreau au Cameroun. Elle est très branchée dans les nouvelles technologies et donc elle décide de reprendre effectivement ce Bring Back Your Internet en faisant référence à Bring Back Your Girls, tout comme le Je suis Deli fait évidemment référence à Je suis Charlie, parfois les hashtags.
Et sur lequel elle parle aussi français pour fédérer le Cameroun francophone.
Exactement.
En solidarité.
En solidarité et d'ailleurs les francophones et même les anglophones allaient jusqu'à la frontière à Diala pour pouvoir justement capter un petit peu de réseau et les francophones eux aussi étaient soumis d'ailleurs à des pressions du gouvernement. On y revient, hein, qui disait si vous publiez ce hashtag Bring Back Our Internet, vous allez être accusé de faire de la propagande et vous risquez la prison.
Amende de 5 à 10 millions si vous publiez ou propagez sur un réseau social une nouvelle sans preuve de véracité. Effectivement, ça a été envoyé par le ministère des Postes et Télécommunications par SMS.
Par SMS,
ouais, aux citoyens, au Cameroun.
Bah oui, c'est tout le problème. C'est quand on a des gouvernements ou des États qui ont la main sur les canaux de diffusion, sur les opérateurs, c'est très facile de leur faire peur en envoyant un SMS à tout le monde.
Hein. Est-ce que c'est le hashtag qui a rétabli la lumière d'une certaine manière, au bout de 93 jours, le courant Internet.
En tout cas, on peut imaginer que sans ce hashtag-là, peut-être qu'il n'aurait toujours pas Internet, puisqu'on n'en parlerait pas. Le Bring Back Our Internet a tout de même permis au Cameroun, et notamment dans la partie francophone du pays qui est la plus importante, eh bien, de s'approprier ce combat-là. On en a parlé aussi, j'imagine ici, chez vous, sans doute, j'en suis même
ça
certain.
Ça a été largement relayé
voilà.
Sur RFI, en effet.
Et partout.
Et en quoi c'est un combat qui pourrait à terme avoir des résonances mondiales? Edward Snowden, le lanceur d'alerte, en a parlé lui aussi.
Tout de suite, il s'est réapproprié d'ailleurs ce hashtag Bring Back Our Internet en disant voilà, ça n'existe pas qu'au Cameroun, ça n'existe pas qu'en Afrique. Demain, l'avenir de la censure chez nous, dans les pays occidentaux, ça sera la coupure d'Internet. Quand on voit aujourd'hui Donald Trump qui essaye de mettre fin à la neutralité du net, c'est d'une certaine façon un moyen pour nos dirigeants, pour les dirigeants du monde occidental, d'essayer de reprendre la main sur ce réseau pour le contrôler et pour éviter demain peut-être une future révolution. C'est ce que Edward Snowden a voulu dire. Et aujourd'hui, Bring Back Our Internet a dépassé les simples frontières camerounaises pour devenir un cri de ralliement contre toutes les censures de l'Internet qui ont lieu dans le monde entier et tous les jours.
Vous pensez qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen dans le monde peut se dire ça pourrait m'arriver d'être privé d'Internet.
Je pense que plus personne n'est à l'abri.
C'est un des sujets les plus concernants.
Vous parliez de lumière, vous faisiez l'analogie entre Internet et la lumière. Je pense que tout le monde a besoin de lumière. Et aujourd'hui, Internet peut être soit une lumière, soit de l'oxygène. Et en tout cas, personne n'est à l'abri, c'est certain.
Il y a un hashtag qui est sûrement, vous l'écrivez d'ailleurs, un des plus douloureux sur lesquels vous avez écrit, mais aussi compliqué, le hashtag Je suis Charlie au lendemain des attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo. On est toujours dans le domaine de la liberté d'expression, mais c'est en même temps le hashtag qui a suscité le plus de polémiques, pour ne pas dire de haine.
C'est vrai que c'est sans doute le hashtag qui en France a vulgarisé, ne serait-ce que le terme du hashtag. Jusque-là, on ne savait pas encore trop ce que c'était, sans doute même qu'on le prononçait mal. Hashtag, etc. On n'était pas nombreux à savoir exactement de quoi il s'agissait. Mais le « Je suis Charlie » est devenu un cri de ralliement, a suscité de l'empathie dans un premier temps. Et puis c'est vrai, comment arriver à ce que près de 70 millions de Français se retrouvent dans ces trois seuls mots, je suis Charlie, c'était trop petit.
C'était qui à l'origine? Parce que évidemment c'est une allusion, d'ailleurs vous le rappelez, parce qu'on apprend plein de choses dans votre livre, ou en tout cas on se souvient de plein de choses dans votre livre, et ça c'est bien. C'est l'allusion à Ich bin ein Berliner du président Kennedy à Berlin-Ouest en 63, donc en pleine guerre froide. Et puis aussi le « ce soir nous sommes américains » ou « nous sommes tous américains » je crois, après les attentats du 11 septembre, à l'époque Twitter n'existait pas, mais c'était l'éditorial du journal Le Monde qui avait été repris par la presse entière.
C'est Joachim Rossin qui, à la base, qui était un directeur artistique d'une revue parisienne, qui a eu cette idée de « Je suis Charlie ». Alors effectivement, il le dit, c'est à partir de toutes ses références. Enfin, il le dit, peut-être qu'il post-rationalise. Sur le moment, il a juste pensé à « Je suis Charlie ». D'ailleurs, la veille, il lisait encore avec son fils les fameuses bandes dessinées « Où est Charlie ?». Donc il avait ce Charlie en tête et il a dit, voilà, comme un cri encore une fois du cœur spontané, Je suis Charlie, il l'a publié et c'est devenu sans doute l'un des hashtags les plus populaires au monde.
Oui, populaire, mais en même temps, quelle répercussion sur le combat contre le terrorisme?
Alors ça, je suis d'accord avec vous, aucune.
Voilà.
Dans cette histoire...
C'est pas un hashtag qui change le monde.
C'est pas un hashtag qui change le monde, par contre. Il y a un hashtag qui suit justement dans cette histoire-là qui s'appelle Porte ouverte, que vous avez sans doute suivi. Porte ouverte, ça a lieu eh bien, quelques mois plus tard, lors des attentats parisiens du Bataclan de novembre. Il y a une solidarité qui est née chez ces Parisiens, qui fuyaient les balles, tout était bouclé, les secteurs étaient fermés, etc. Il y avait quand même une petite panique qui est née. Et là, il y a un autre utilisateur qui a dit, si tu peux accueillir des gens chez toi, eh bien, donne ton adresse à coller de ce hashtag Porte ouverte. Et là, on sait que des gens ont quand même, au moins, se sont rassurés les uns avec les autres, se retrouvant, il y a eu des réunions, il y a eu des moments de partage très forts dans cette soirée qui est quand même une soirée traumatisante et dramatique.
Et puis il y a eu aussi le hashtag, ça me fait penser, le tous en terrasse. Hein. Non, les terroristes ne vont pas changer notre façon de vivre, notre liberté de vie quotidienne et on va continuer à aller boire un verre en terrasse, se rencontrer, se parler les uns les autres. On va parler dans quelques instants d'Internet. Non, on a un auditeur au téléphone qui nous appelle... Une auditrice qui nous appelle au téléphone au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec Zeyna qui nous appelle de Dakar. Bonjour chère voisine.
Bonjour.
Vous êtes en direct, on vous écoute Zeyna.
Oui, en fait, je voulais juste partager mon expérience avec l'utilisation du hashtag Nous 2012. C'était lors des élections présidentielles de 2012 au Sénégal. Et en fait, une communauté s'était créée sur Twitter. Nous étions essentiellement des jeunes qui étaient contre le fait que Abdoulaye Wade, le président d'alors, voulait se représenter. Normalement, il n'en avait pas le droit. Donc, il y avait des manifestations, il y a même eu des morts, des blessés. Et chaque fois qu'il y avait des manifestations, on utilisait ce hashtag #Tout Nous 2012 pour relayer l'information. Et voilà, on l'utilisait aussi avec un autre hashtag qui est le hashtag du Sénégal, c'est Kébétou. On utilisait... On savait qu'en suivant le fil, on avait toutes les informations sur ce qui se passait, où ça se passait, et voilà. Donc après ça, une communauté s'est créée autour de ce hashtag. Maintenant, bien sûr, on utilise juste le hashtag Kébétou, mais je peux dire qu'au Sénégal, le hashtag que nous demandons de la percée de Twitter ici.
Oui, et il y en a beaucoup d'autres, hein, des hashtags au Sénégal, parce que c'est vraiment votre pays, Zeyna. Enfin, je présume que vous êtes sénégalaise vous-même.
Oui, je suis sénégalaise.
Vous êtes dans un pays hyper actif sur Twitter, mais aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. On peut dire que le citoyen sénégalais est prêt à dégainer en permanence. Hein, je parle sous votre contrôle, François Saltiel.
Oui, d'ailleurs, dans de nombreux pays d'Afrique, on se rend compte qu'on a parfois un accès à Internet plus facile que parfois à l'eau ou encore à l'électricité. Je parle évidemment pas du Sénégal ici, mais de d'autres pays africains.
Merci à vous de nous avoir appelé, Zeyna. Et juste une dernière question sur la condition des femmes. Est-ce que vous, en tant qu'internaute, citoyenne internaute, vous vous sentez une plus grande... vous avez le sentiment qu'Internet est un espace particulier pour vous en tant que femme?
En fait, c'est un espace libre pour moi en tant que femme. Et je ne sens pas une différence du fait que je sois une femme. J'utilise Internet comme je veux et je ne sens pas de pression à accuser, pas parler comme ça sur les réseaux sociaux. Non, les voix les plus... celles qu'on entend le plus sont les voix de femmes, par exemple.
Mais oui. Et d'ailleurs, on est ravis de vous avoir au téléphone parce que nous, on a du mal à avoir des voisines qui nous appellent, sauf depuis qu'on a WhatsApp, parce que le téléphone est gratuit et les femmes font attention à ce qu'elles dépensent. Et donc, effectivement, quand c'est gratuit, bah, comme par hasard, elles nous téléphonent davantage. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Zeyna, en direct de Dakar. Dans quelques instants, justement, on revient aux femmes. On va parler des Iraniennes.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près... On sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
François Saltiel, on fait vraiment le tour de la planète avec vos histoires de hashtags devenus viraux. Vous avez consacré un chapitre à My Stealthy Freedom, Ma Liberté Furtive, quand les Iraniennes se révoltent sur Internet. Forcément, on en parle. Il y a eu énormément de mobilisation de la part des Iraniennes depuis quelques années sur la toile, pas seulement avec ce hashtag-là.
Oui, alors le départ quand même de ce hashtag-là, c'est Massi Alinejad, qui était une journaliste iranienne, qui a publié des papiers qui étaient un peu trop critique à l'encontre du pouvoir. Elle a dû donc s'exiler à Londres. Et une fois à Londres, eh bien, elle s'est mise à enlever son voile. Elle n'y avait jamais vraiment réfléchi auparavant. Et en enlevant son voile, eh bien, elle retrouve une sorte de liberté. C'est-à-dire que ce voile faisait partie de sa vie. Elle dormait avec depuis toute petite. Et en l'enlevant, eh bien, elle sent le vent souffler dans ses cheveux.
Ça, c'était il y a 4 ans déjà.
Exactement. C'est en 2014. C'est ce qu'elle a qualifié donc de sa liberté furtive. Et elle se prend en photo sans son voile. Elle le met cette fois-ci sur une page Facebook, mais toujours accompagnée de ce hashtag-là, en disant voilà, moi j'ai senti ce moment de liberté. Je pense que je ne m'en rendais pas compte, mais le voile était pour moi une forme d'esclavage. Attention, elle n'est pas contre le port du voile. Elle est contre le port du voile obligatoire. Et elle dit, comme l'appel de Sandra Muller tout à l'heure, si vous aussi, femmes iraniennes, vous avez envie ou vous subissez ce voile, eh bien prenez-vous en photo sans, en Iran, cette fois-ci en Iran, donc elle risque bien sûr la prison en le faisant. Et ça a généré des milliers et des milliers de photos sur cette page Facebook.
100 000 personnes en quelques semaines.
Voilà, voilà.
Comment le pouvoir à Téhéran a organisé sa contre-offensive pour décrédibiliser cette femme sur les réseaux sociaux?
Au début, ils n'y croyaient pas trop, puisque c'était un petit mouvement émergent. Puis quand ils ont vu ces milliers de photos arriver, effectivement, ils ont paniqué. Donc ça a été la logique bien connue de la diffamation, c'est-à-dire qu'on lui a inventé un passé à Londres de prostituée. On a dit que c'était une espionne occidentale. Donc on a imaginé beaucoup de calomnies à son encontre, en utilisant d'ailleurs aussi les réseaux pour les diffuser. Et puis on a essayé d'abîmer son image.
Vous parliez de cette femme qui enlève son voile et dont on voit les cheveux au vent. Mais il y a une femme tout récemment, en décembre dernier, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres libertés furtives ensuite, après 2014, qui ont été postées sur le net. Et moi, je pense bien sûr à cette photo qui a fait le tour du net, qui est très belle. Elle s'appelle Vida Movaed, si je prononce bien, jeune iranienne. Debout, elle est montée au moment d'une manifestation sur un espèce de compteur électrique et elle a brandi son voile accroché au bout d'un bâton.
Son voile blanc.
Blanc.
Parce qu'il y a eu un autre hashtag, les White Wednesday, justement pour défendre la même cause. D'ailleurs, c'est la même action. C'est-à-dire que Massi Alinejad est aussi à l'origine des White Wednesday. Ça a ensuite été bien
les mercredis
sûr,
blancs.
Voilà, les mercredis
qui
blancs.
Qui doivent être en principe partagés aussi par les hommes qui peuvent porter un petit ruban blanc au revers d'une veste ou d'un t-shirt.
Par les hommes et les femmes voilées. Oui. C'est ça en fait toute la force des White Wednesday, puisque My Still See Freedom, c'était de se photographier sans voile, mais ça concernait finalement que les gens qui étaient opposés au voile. Par contre, White Wednesday, ça voulait dire tu es une femme voilée, mais tu acceptes ce combat-là que tu trouves légitime, et bien porte un voile, mais blanc.
Oui. Alors à chaque fois dans toutes ces histoires, quand même, on se dit, bon, tout ça, c'est du symbole ou de la com? Parce que qu'est-ce qu'il en sort?
Les deux, mon capitaine. Puisque effectivement, il faut savoir maîtriser les outils de communication pour pouvoir partager ses idées au plus grand nombre. Alors, je réfute l'argument de la com, parce que la com, ça voudrait dire que c'est anticipé, etc. Dans le cas de Ma Liberté Furtive, Massi Alinejad, quand elle part à Londres et qu'elle enlève son voile, c'est un geste spontané, authentique. Elle se dit pas, je vais devenir une militante qui va être connue à l'international, reçue à Genève et à l'ONU en obtenant un prix pour la paix. Non, elle se dit, je le ressens, je le vis, je le publie. Alors ensuite, effectivement, que certaines personnes se disent « White Wednesday, ça sonne bien, les mercredis blancs, etc. », qu'il y ait une réflexion par rapport à la communication de ce message-là, oui, certainement.
Pour être entendu
pour
effectivement faire partager son point de vue, sa colère.
Oui, exactement, mais si je peux me permettre, si ce n'est que de la com, ça ne marche pas au bout d'un moment.
Vous restez avec nous, François Saltiel. Je vous propose d'écouter un reportage à Téhéran. Neda, qui est une jeune entrepreneuse iranienne, elle a tout juste 31 ans. Elle porte des restes de balayage blond sur ses cheveux lisses. Elle a un visage à peine maquillé. Et selon ses propres mots, en fait, elle vient d'une famille ouverte qui vit dans le nord du pays. Aujourd'hui, et depuis 12 ans, elle loue un appartement seule, ce qui est rare en Iran. Elle travaille dans une entreprise d'informatique, de nouvelles technologies, en attendant de lancer son business d'ici l'été, une start-up, dans un pays où seulement 16% des femmes travaillent, alors qu'elles constituent plus de la moitié des étudiants à l'université. Elle a raconté à Charlie Dupio la vie des femmes au travail en Iran.
Être une femme sur certains lieux de travail en Iran, c'est difficile. Par exemple, ton patron va se laisser aller à juger, à commenter ton apparence, tes vêtements, ton hijab. Il va même en rire. Ou même faire des remarques sur la façon dont tu dépenses ton argent. Par exemple, ma première expérience professionnelle a eu lieu dans une très grande entreprise, un endroit très moderne et intellectuel. Et quand j'ai demandé une augmentation, mon patron m'a répondu « Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi voudrais-tu un salaire plus élevé ? Tu veux plus de manteaux, plus de vestes, plus d'habits, c'est ça ? C'est à ça que tu veux dépenser ton argent ? » C'est vraiment une vision sexiste. Un autre patron, dans une entreprise différente pour laquelle j'ai travaillé, m'a dit un jour « Il existe deux types de filles, celles qui sont jolies et celles qui travaillent très bien. » L'idée sous-entendue, c'est que les jolies filles ne travaillent pas bien et que si nous travaillons bien, c'est parce que nous ne sommes pas jolies. Et pourtant, cette remarque venait d'un patron qui voyageait beaucoup aux États-Unis, qui avait l'air moderne et qu'on aurait pu imaginer plus ouvert.
Alors là, vous travaillez actuellement dans une entreprise de nouvelles technologies à Téhéran et vous êtes en congé pour devenir en fait entrepreneuse. Vous réfléchissez à votre projet. Quel est le projet d'entreprise que vous êtes en train de lancer ?
Il y a un grand nombre d'Iraniens qui vivent à l'étranger et à qui l'Iran manque et qui voudraient rester en lien avec leur pays. Mon projet est simple, je suis en train de créer un site internet via lequel je pourrais envoyer à chacune de ces personnes de la diaspora qui seraient abonnées sur mon site un souvenir, un produit d'Iran, gastronomique ou culturel, qui leur évoque l'Iran, chaque mois ou même chaque saison, et cela les rappellerait à leur nostalgie. Je connais d'autres femmes entrepreneurs qui ont réussi en Iran, mais elles sont beaucoup plus rares que les hommes. Nous sommes confrontés à deux problèmes en fait. D'une part, la société qui ne nous accepte pas, et d'autre part, nous-mêmes. Car en tant que femmes, je pense que nous ne sommes pas élevées pour devenir des leaders. Nous sommes plutôt éduquées à suivre les autres. Mais moi qui pense à développer mon business, je suis malgré tout assez confiante. Pendant des années, je me suis créée un groupe d'amis, filles et garçons, dont je suis très proche mentalement et intellectuellement. Nous nous ressemblons beaucoup. Et je pense que grâce à ce groupe d'amis, grâce à cette bulle que je me suis créée, le fait d'être une femme ne m'impose pas de barrières, ne m'empêche pas de faire des choses. En Iran, quand on est une femme, je pense qu'il faut savoir s'entourer, se constituer un groupe de proches qui nous soutiennent pour que nous puissions réussir et trouver notre voie.
Est-ce que vous vous diriez féministe ?
Il y a une part de moi qui est féministe, battante et qui veut repousser les frontières. Mais je n'ai pas envie d'être une battante en fait. Je veux vivre d'une façon normale. Je veux du plaisir dans ma vie. Je refuse que le combat pour mes droits en tant que femme ici soit le sens de ma vie. Je ne suis pas une militante. Si je quitte l'Iran, cela sera parce que j'ai trouvé des opportunités professionnelles ailleurs. Pour l'instant, il n'en est pas question. Je veux rester vivre ici, en paix, et vivre des choses normales, comme toutes les autres jeunes femmes à travers le monde.
Voilà, on vient d'entendre le témoignage de Neda, qui a tenu à rester anonyme, je le précise, qui a été enregistré par Charlie Dupio en Iran. C'est intéressant la façon dont elle se positionne, parce que d'abord on voit la galère que c'est pour une jeune fille iranienne, ultra éduquée, ultra diplômée, tout simplement pour lancer sa start-up déjà. Et ensuite, des filles qui se disent pas militante, mais qui s'empare du net pour changer leur vie. C'est compliqué ce nouveau positionnement, non ?
Oui, c'est un nouveau positionnement et en même temps l'Iran a toujours été précurseur, un pays précurseur justement dans l'utilisation des réseaux, parce que dès 2009 quand il y avait le fameux mouvement vert, eh bien c'est là où pour la première fois, avant même les printemps arabes en fait, les Iraniens et donc les Iraniennes ont utilisé Facebook et Twitter pour clamer leur opposition au pouvoir, pour aller dans les rues, et d'ailleurs ils l'ont si bien fait et fait si tôt que derrière le pouvoir en place a censuré très vite les réseaux sociaux. Encore récemment, il y a eu de grandes manifestations en Iran et on a vu que Instagram était aussi devenu un réseau censuré. Il ne reste plus que Telegram là-bas qui peut encore être utilisé. Donc,
il n'y a jamais de coupure totale comme on a eu par exemple dans certaines régions au Cameroun.
Non, parce qu'en fait, les Iraniennes et Iraniens sont ingénieux et même si on coupe Internet, ils utilisent les fameux VPN pour obtenir en fait une connexion privée, se servir d'une connexion privée pour continuer à diffuser leurs idées. Ce qui est intéressant avec Internet, c'est que quelque part, un site n'est jamais mort. On a beau essayer de le censurer, c'est tel un phénix, il renaît toujours de ses cendres.
Exactement, et vos histoires non plus ne sont pas mortes. Il faut les lire, il faut les découvrir parce qu'elles sont en mouvement en permanence. Le vendeur de thé qui change le monde avec un hashtag et autres histoires de hashtag qui transforment nos vies, c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup François Saltiel.
Merci pour votre invitation.
Vous êtes passé par le studio et merci à Sandrine Nagertiga, le hashtag réglé comme elle. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. À demain les voisins et les voisines.